France Musique.
Stéphane Grant, Lirico Spinto, France Musique.
Hier, samedi, le 10 juin, à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier, avait lieu la première d'une nouvelle production de La Cenerentola de Rossini. Et c'était une première en forme de baptême du feu pour le metteur en scène de ce spectacle, Guillaume Gallienne. On connaît l'acteur de la Comédie française, on connaît le réalisateur de films, mais Guillaume Gallienne signe ici sa première mise en scène d'opéra. Il s'est attaché d'ailleurs à montrer de cette Cenerentola les deux versants de l'ouvrage Dramma Giocoso. Alors avant de devenir lui-même metteur en scène d'opéra, eh bien écoutez tout d'abord comment Guillaume Gallienne a été marqué par quelques grandes productions lyriques.
J'ai la chance d'en voir des très belles, pas énormément, mais des très belles. Une des premières fois, c'était à Bastille, au tout début de Bastille, c'était un Samson et Dalila qui avait fait scandale parce que la chute de Babylone avait été traitée d'une façon assez contemporaine. Et j'avais mon voisin de droite qui hurlait « On n'est pas chez Saint-Laurent ici !» et mon voisin de gauche qui hurlait « Bravi, bravi !» Donc la chute de Babylone avait lieu dans la salle. J'avais adoré. Et puis j'ai eu la chance de voir Tristan et Isolde dirigé par Marianne Baum et mis en scène par Patrice Chéreau, de voir ici Alcina, dirigé par Bill Christie et mis en scène par Carsen, avec René Fleming qui faisait un travail sur le silence extraordinaire. J'ai eu la chance de voir Electra, de voir toujours mis en scène par Chéreau d'ailleurs. J'ai eu la chance d'en voir des vraiment très beaux.
Cet imaginaire-là, il est fécond, il est à la fois excitant et un peu intimidant quand on fait sa première mise en scène lyrique.
Excitant, oui, de toute façon, parce que la musique de Rossini est incroyable, elle avance à une vitesse, elle trace vraiment, c'est assez impressionnant, et en même temps, le sujet... Je connaissais que Walt Disney, en fait. J'ai lu Perrault. C'est vrai que souvent j'ai vu des. J'étais assez voilé par une interprétation très opéra bouffe, alors que Rossini dit que c'est un drame joyeux. C'est pas du tout un opéra bouffe. Donc cette espèce de grotesque pantomimique, moi, me voilait un peu l'œuvre. Et voilà. Et on a travaillé beaucoup avec les chanteurs pour à la fois essayer de trouver une forme de simplicité. Et en même temps, ce drame joyeux de comment l'équilibrer, comment le traiter pour que ce soit, oui, certes réjouissant, mais c'est Van Lister en me proposant la mise en scène, je lui dis « mais pourquoi moi ?» Et il m'a dit « parce que c'est sur la famille, c'est drôle et c'est cruel ». Bon, ben donc c'était déjà une piste intéressante à creuser. Et voilà, c'était un travail de longue haleine, et ça m'a beaucoup plu, ce rythme de l'opéra qui vous permet 3 ans avant de commencer à rêver, de lancer des questions dans l'air sans vous imposer une réponse immédiate, et de laisser venir aussi les choses avec le temps. Et puis avec ensuite les collaborations, Éric Ruffo à la scénographie, Bertrand Coudert aux lumières, Olivier Berry au costume. Et puis avec Marie Lambert, ma collaboratrice artistique, on a travaillé beaucoup. On est allé chercher des images, des films, des choses qui nous inspiraient à partir de l'œuvre.
Et alors, je vous entends parler du rythme de l'opéra, du rythme du travail lui-même, parce qu'on s'y prend 2-3 saisons en avance quand on pense à un spectacle d'opéra, Guillaume Gallienne. Mais le rythme ensuite d'une œuvre, le rythme d'une Cenerentola de Rossini, de quelle façon un metteur en scène le traite, comment fait-il avec? Est-ce que là, encore une fois, c'est stimulant? Est-ce que quelquefois ça résiste? Comment ça se passe, ce travail exactement? Au début, je veux dire, quand on ouvre le livret, la partition, qu'on commence de se plonger dans l'œuvre et à réfléchir justement à la façon dont on va la montrer.
Ben c'est, moi j'aime toujours quand ça résiste, parce que ça, c'est là où ça devient très intéressant. Sinon je me méfie toujours du confortable. Bon, c'est très souvent de façon, avec l'opéra, c'est vraiment dans la musique et dans le chant qu'on trouve les réponses. La musique de Rossini, en effet, avance tout le temps avec, je me souviens d'une chanteuse qui me disait, mais c'est du champagne. Bon, très bien, c'est du champagne, mais pas que. Et donc voilà, c'était souvent me dire, mais là, il est seul pour dire ça. De chercher aussi quelle était la situation de chaque situation. Qu'est-ce qu'elle racontait? Qu'est-ce qu'elle, donc c'est intéressant de voir comment les choses se succèdent, parfois un peu comme des numéros, comment ne pas tomber dans ce panneau-là, comment on le sent au fur et à mesure du travail, on le voit en fait, physiquement, on l'éprouve.
La scénographie d'Éric Ruff, l'univers que vous nous proposez avec lui, Guillaume Gallienne, il est né dans dialogue entre les deux, c'est lui qui vous a proposé ces images-là, comment c'est né exactement?
En fait, moi j'avais cette idée du volcan qui m'est venue pour plusieurs raisons. Le texte qu'il y a au final du 1, où tout le monde dit « j'ai peur qu'une éruption vienne anéantir mes rêves », bon, cette éruption elle vient d'où? La cendre. On l'appelle la Cenerentola, on la débaptise, on l'appelle pratiquement jamais Angelina. D'où vient cette cendre? Et puis aussi parce que ça fait partie des œuvres napolitaines, comme on dit, de Rossini, même s'il l'a créé pour le Carnaval de Rome, c'est quand même parmi les œuvres napolitaines. Je lisais pas mal de choses sur Naples au moment où Stéphane Lister m'a proposé cette mise en scène. Et donc plusieurs choses se sont conjuguées. Et puis je trouve que la Cenerentola est volcanique. Elle très vite, dès la rencontre d'Ali Doro, ça commence à bouillonner là-dedans, à l'intérieur. Et on sent qu'elle a une force comme ça. C'est vraiment un phénix qui naît de ses cendres, on sent cette braise sous la cendre qui brûle. Voilà, c'est tout ça réuni qui ont fait que j'ai parlé de ce volcan à Eric. Je lui disais, voilà, j'ai besoin d'une façade, d'un palais délabré. Je veux sentir qu'il a claqué tout le pognon, qu'il ne reste plus rien. Et en même temps, je veux que les extérieurs puissent être intérieurs aussi, que tout se fasse en public, que l'humiliation soit publique.
Oui, parce qu'on est très à l'extérieur quand même. Les choses se passent beaucoup à l'extérieur, c'est-à-dire au vu de tous.
Exactement. Oui. Mais comme souvent... Dans l'Italie du Sud, souvent, on assiste à des choses qui devraient être privées et qui sont très, très publiques. Donc voilà, et c'est lui qui a eu cette idée de la lave qui occupe tout le sol comme ça qui a envahi la moitié du rez-de-chaussée de tout espace, comme une éruption qui a eu lieu et qui peut se reproduire d'un instant à l'autre, avec ce danger. Et puis il y a un rapport aux éléments dans l'œuvre. Il y a l'orage, il y a le final du 1, il y a vraiment un rapport aux éléments très présent.
Est-ce qu'un acteur, pour le coup, comme vous, Guillaume Gallienne, apprend beaucoup d'un travail avec des chanteurs ?
De toute façon, on apprend toujours. Hein. Là, ce qui était très intéressant, c'était de casser quelques codes, voire des tics que certains pouvaient avoir parce qu'ils l'ont déjà joué dans des versions justement très bouffes. Donc, il a fallu gommer beaucoup. Et puis, le travail avec les chanteurs, contrairement aux acteurs, en fait, il faut leur montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que si vous montrez à un acteur, c'est terrible, vous le réduisez à un imitateur, vous cassez complètement son imaginaire, alors que les chanteurs, c'est l'inverse. Ils sont très précis, mais ils saucissonnent énormément par rapport aux mesures, par rapport à la musique, et donc il faut vraiment leur montrer A, B, C. On s'attend à ce qu'ils trouvent D, puis en fait non, il reste assez, donc bam, faut leur montrer aussi le D et le E.
Ça vous a étonné au début dans le travail avec eux ?
Chez certains, oui, et d'autres, pas du tout. Par exemple, Teresa Iervolino, on s'était rencontrés à Palerme après une représentation justement de la Cenerentola qu'elle chantait déjà. Et lorsque je lui ai expliqué mon projet, elle a adhéré, mais dans la seconde, elle a fondu en larmes en disant « Ah, yes, it's true. » Bon, mais c'était très touchant. Et elle a tout pigé d'entrée. C'était assez merveilleux, assez extraordinaire. Comment elle s'est accaparée de ce projet-là, d'ailleurs, dans son entier.
Une toute dernière question, parce que je pourrais vous poser la question de la façon dont débute le spectacle, mais j'aimerais bien que vous me disiez comment il se termine, parce que c'est le rondeau de la Cenerentola, c'est un peu le numéro que tous les spectateurs attendent quand ils viennent voir cet ouvrage de Rossini. Comment on a envie de le mettre en scène, d'une façon extrêmement simple ?
En fait, il y a un clair-obscur, qui m'est apparu comme une évidence, parce que... Depuis le début que j'écoute cette œuvre, à chaque fois j'ai cette phrase qui me vient en me disant c'est la perte d'une innocence. Et l'innocence de l'enfant battu, de l'enfant maltraité qui finalement, ne connaissant pas autre chose, a l'innocence de la victime. Et lorsque elle découvre qu'on peut l'aimer, qu'on peut être tendre avec elle, alors il y a une intelligence qui commence à prendre du recul, il y a un courage qui naît de ça. Et autant c'est le triomphe de la bonté, autant c'est la perte de l'innocence. Et d'ailleurs, elle termine en disant « ma vengeance sera mon pardon ». Donc voilà, c'est intelligent. Ça n'est plus... une enfant sauvage comme ça, une enfant d'une fille du volcan qui est juste bêtifiée. Non, là, elle devient vraiment une reine intelligente, mais elle choisit la bonté.
Et le prince dont vous avez fait un être fragile physiquement, cette idée-là, elle est venue assez vite aussi dans votre conception de cette mise en scène, Guillaume Gallienne ?
Elle est venue de deux questions qui me sont apparues dans l'œuvre. La première, c'est même de trois choses. La première, c'était, j'avais vu la mise en scène de Klaus Michael Gruber, qui est un dieu vivant pour moi. Et même s'il est décédé, il est toujours là. Et il en avait fait comme ça une espèce de fragilité incroyable. Ça, c'était une première inspiration. La deuxième, là, ça vient plus de l'œuvre elle-même directement. Je ne comprenais pas leur coup de foudre. J'avais besoin de comprendre où ils se plaçaient, pourquoi ces deux-là se retrouvaient comme une évidence. Et aussi parce qu'au moment où ils se rencontrent, elle le pousse de peur et il lui dit « mais je suis un monstre ». Et elle lui dit « oui », pour après se reprendre. Et je me suis dit « mais pourquoi est-ce qu'elle lui dit « oui » ? Qu'est-ce qu'il a de monstrueux ?» Et autant elle, il y a cet handicap affectif, autant lui, je voulais qu'ils se reconnaissent tous les deux comme deux handicapés. Et lui, c'est cette jambe qu'il a. Il y a une souffrance visible chez lui. Ils se reconnaissent dans la souffrance, dans la grâce qui peut émaner de la souffrance et de la simplicité qu'ils ont, eux, par rapport à ça.
Merci beaucoup. Merci. Guillaume Gallienne.
Oh.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.